VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour à Abidjan, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. La lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone a connu un nouveau décès dû à la maladie dans une province qui n'avait plus signalé de cas depuis près de 6 mois. Timothée Donangmaï.
Une adolescente de 16 ans est décédée dimanche à Makeni, province de Bombali, dans le nord de la Sierra Leone. Selon les statistiques officielles, le dernier cas enregistré dans cette province remontait à 169 jours. La jeune fille avait montré des symptômes de la maladie le 8 septembre, mais n'a été hospitalisée que 4 jours plus tard. Ses parents, professeurs et camarades de classe sont sous surveillance, a indiqué à l'AFP Hamidou Forna, porte-parole du centre de traitement. Ce dernier cas ne semble pas lié au décès fin août d'une femme de 67 ans dans le village de Selakafta, dans la province voisine de Kambia. Ce village a été placé en quarantaine et plus d'une centaine de personnes se sont vues administrer un vaccin déjà expérimenté avec succès en Guinée.
Au Burkina Faso, la Commission nationale de réconciliation et des réformes a recommandé lundi la dissolution du régiment de sécurité présidentiel. L'ex-garde prétorienne du président déchu, Blaise Compaoré. Elle a également préconisé un référendum sur la nouvelle constitution. Les Burkinabés se rendent aux urnes le 11 octobre pour les élections présidentielles et législatives. Au Togo, les internautes ne décollèrent pas face aux problèmes de communication dus à l'Internet à faible débit et aussi à la lenteur des réactions du gouvernement à cette situation. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, nous en dit plus.
Tout le monde a des difficultés par rapport à la connectivité au Togo. Bon, on fait avec.
Le taux de pénétration de l'Internet est moins de 10% au Togo, selon les chiffres de l'ARTP, l'autorité de réglementation des secteurs des postes et de télécommunications. Mais la proportion de la population togolaise à avoir accès au haut débit est encore plus minime, 3,53% en 2014. Surfer au Togo est assimilable à l'ascension du mont Calvaire, estiment ses internautes.
Les Togolais sont en train de tirer le diable par la queue en matière de connexion Internet. La connexion Internet, il n'y en a pas du tout. Ça ralentit toutes les activités un peu partout.
La connexion, comme on le dit au Togo, ça chute et ça redémarre. Quand vous allez dans les banques, vous allez constater qu'il y a des files d'attente. Les gens ne cessent de pousser des jurons parce que la connexion ne marche pas. C'est difficile même de percevoir son argent parfois.
Tout le bruit qu'on nous a fait, des hauts débits, câbles sous-marins, je crois absolument aujourd'hui, ça n'a rien fait parce que la connexion Internet est inexistante. Et c'est dommage, ça ne fait que ralentir le développement de notre pays.
La ministre de l'économie numérique reconnaît que la connectivité fait défaut dans le pays. Plusieurs facteurs y concourent, relève Sidna Lawson.
Il y a des facteurs, par exemple, liés à l'absence d'infrastructures. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de fibres au Togo. Il y a des problèmes liés à la gestion. Il ne faut pas se leurrer. Nous aurons beau mettre en place la meilleure infrastructure au monde, si à l'intérieur, les sociétés dont le travail est de gérer ces infrastructures ne font pas bien le travail, ce ne sera pas bien géré. Donc, il y a d'autres problèmes. On va prendre un débit qui est trop faible et qu'on va partager avec un nombre trop important de personnes. Dans un cas comme ça, même si le réseau est bien géré, l'infrastructure est là, l'utilisateur final aura l'impression que ça marche mal.
En plus des raisons évoqué par la ministre, ce Togolais a son explication du mauvais débit de la connexion Internet.
Selon certains dires, c'est parce que le Togo s'est connecté avec une seule fibre optique, alors que le Ghana s'est connecté avec 6 fibres, le Nigeria 10 fibres, donc par conséquent, le Togo aura toujours des problèmes. Et en écoutant la ministre la fois dernière, elle est en train de donner des arguments qui ne tiennent pas. Elle dit que voilà, les administrations seront connectées par la fibre optique et nous, qui sommes les populations, les citoyens, comment on va profiter de cette fibre optique?
Emmanuel Acha est journaliste. Il affirme que l'état de la connexion dans le pays impacte son travail.
Par exemple, tu es obligé d'attendre parfois la nuit à 3h ou à 2h du matin lorsque les Togolais ne sont pas connectés pour avoir une meilleure connexion. Tu as le son à envoyer par exemple, tu envoies, ça tourne, ça ne part pas. Ça impacte énormément sur notre travail. Pour envoyer par exemple une vidéo, on est obligé d'aller au Ghana.
Dénonçant une violation du droit à la télécommunication, le mouvement Martin Luther King interpelle le gouvernement togolais. Pasteur Edo Komi, président du dit mouvement.
C'est une violation des droits humains parce que la Constitution togolaise reconnaît le droit à la télécommunication. Donc aujourd'hui, les Togolais sont lésés dans leurs droits. Ils n'arrivent pas à communiquer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pouvez être sur un petit fichier pendant des heures par manque de connexion. Et c'est cela notre combat pour redresser les choses. Il revient à l'État togolais de prendre des mesures pour que les Togolais puissent travailler convenablement avec l'Internet.
Le Togo ambitionne de développer le secteur des télécommunications. Le cap, c'est d'arriver à atteindre 15% du taux de pénétration de l'Internet en 2016. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Génocide rwandais, la justice française a émis aujourd'hui un avis défavorable à la demande d'extradition vers le Rwanda de Joseph Habyarimana, un Français accusé au Rwanda d'avoir participé au génocide de 1994. La cour d'appel de Toulouse, où réside Habyarimana, a suivi les recommandations de l'avocate générale Florence Galtier pour dire non à la demande d'extradition du Rwanda, qui souhaitait juger le suspect pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité, a indiqué à l'AFP maître Ludovic Rivière, l'avocat de l'accusé. Selon la loi française, le gouvernement est lié par cet avis défavorable et ne peut donc extrader Joseph Habyarimana. Madame Galtier a invoqué la non-rétroactivité des lois pour émettre son avis défavorable à l'extradition. Le Rwanda veut juger Habyarimana pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Or, il n'existait pas de peine incriminant le crime de génocide dans le pays en 1994. En RDC, 33 ONG congolaises des droits de l'homme demandent au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante CENI de ne pas utiliser le récent arrêt de la Cour constitutionnelle comme prétexte pour ne pas organiser les élections législatives et présidentielles dans les délais prévus par la Constitution. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a ordonné aux autorités de prendre des dispositions exceptionnelles avant la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces, et ce pour garantir l'ordre public et la sécurité. Maître Georges Kapiamba, porte-parole des ONG, a jugé cette démarche de la Cour contraire à la Constitution nationale. On l'écoute lundi au micro de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons par exemple constaté qu'il n'existe aucune disposition dans la Constitution, moins encore dans la loi organique, qui pouvait fonder la Cour à s'autosaisir. La Cour a eu à s'arroger les pouvoirs qui sont réservés exclusivement au pouvoir exécutif par l'article 69. Et là, c'est un pouvoir qui est reconnu seulement au président de la République. Donc, nulle part dans la Constitution, moins encore dans la loi organique, il est reconnu un quelconque pouvoir de régulation. Et ça ne peut pas s'entendre dans un état de droit. Donc, la Cour a eu tort de se référer à ce pouvoir dit de régulation sans pour autant indiquer un seul article de la Constitution ou de sa loi organique qui pouvait la fonder à le dire.
Maître Georges Kapiamba, qui a lu hier à Kinshasa la déclaration commune des 33 ONG sur ce dossier. En Namibie, 30 accusés reconnus coupables hier de haute trahison par le tribunal de Windhoek pour leur rôle dans une tentative de soulèvement sécessionniste en 1999 dans la bande de Caprivi, dans le nord-est du pays. Claire Morin-Gibourg.
C'est la fin d'une saga judiciaire qui aura duré 16 ans. En août 1999, un groupe de rebelles indépendantistes attaque la ville de Katima, Mulilo. 13 personnes étaient mortes au cours de ces attaques, aux lance-roquettes, aux mortiers et aux fusils d'assaut, contre un poste de police, un poste de frontière, une banque, une base militaire et un bureau de la télévision nationale. La rébellion avait été matée quelques jours après. Parmi les 30 accusés figure John Samboma, l'ancien commandant du mouvement séparatiste de l'armée de libération du Caprivi. Reconnu coupable de haute trahison, meurtre et tentative de meurtre après 6 jours de lecture d'un jugement fleuve, les accusés risquent tous la prison à vie. Au total, dans cette affaire, plus de 100 suspects ont été traduits en justice et 379 témoins ont été auditionnés. Seules 35 personnes ont été acquittées au cours de cette longue procédure.
Et pour terminer, l'afflux des demandeurs d'asile en Europe, au moins 22 migrants dont 4 enfants sont morts ce matin au large du sud-ouest de la Turquie dans le naufrage de leur embarcation qui tentait de rallier l'île grecque de Kos. C'est ce qu'annonce l'AFP. Les gardes-côtes turcs ont réussi à sauver 211 personnes qui étaient à bord du bâtiment. Les opérations de sauvetage continuent pour essayer de retrouver d'autres survivants. Et en Europe même, le passage des migrants à la frontière entre la Serbie et la Hongrie est maintenant complètement bloqué. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.